René Mezeroy, La mésaventure de Don Juan. Deux duels, la belle affaire, s'écria négligemment le sculpteur Pierre aux Arioles. Et ayant secoué la cendre de son cigare au bord d'une merveilleuse soucoupe de vieux Saxe, il reprit d'un ton railleur : Voyons, messieurs, qu'il n'a pas eu une demi-douzaine dans sa pauvre malheureuse vie. Et pour d'autres histoires que des petits papiers ou des blagues de bonnes femmes. Et parbleu, moi qui vous parle, moi, l'homme le plus pacifique du globe, en y comprenant les terres hyperboréennes découvertes par Nordenskiold, j'ai comme état de service, à 7 heures, 7 duels, 3 blessures, chaque fois avec le même adversaire et chaque fois pour la même cause. 7 duels, 3 blessures, m'entendez bien, et pas la moindre décoration. L'aventure vaut d'ailleurs la peine d'être racontée, bien qu'un peu rabelaisienne. Mais nous sommes entre hommes, pas vrai. Après un excellent dîner, quand on est bourré de truffes comme un chapon de Bresse, quand on se sent aux lèvres l'arôme exquis d'un Havane, il serait malséant de déclamer les larmes aux yeux, dans les prés fleuris qu'arrose la Seine, mes chères brebis, cherchez qui vous mène. Donc, au temps où telle chose m'advint, comme dit le bonhomme, j'étais encore étudiant quoi, le droit ou la médecine, je m'en souviens pas trop, dans une petite ville de Lorraine. La vraie petite ville de province, avec ses pans de murs démantelés, une esplanade où la musique militaire jouait 2 fois par semaine, un théâtre étonnant de vieilles maisons, de vieilles rues, de vieux salons, de vieux usages. On s'y amusait cependant aussi joyeusement que n'importe où, et il s'y trouvait assez de belles filles d'Ève pour nous faire oublier le monde entier. Les roses demoiselles abondaient. Les douairières ne se montraient pas trop revêches. Et sans trêve, que ce fût en avril, que ce fût en été, que ce fût l'automne ou l'hiver, on dansait à corps perdu. Les sauteries se succédaient, tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre. De salon en salon, les épinettes jouaient toutes seules les langoureuses valses de Mercaillou. Et les amourettes ne chômaient pas dans ce contact perpétuel de jeunesse, dans cet échange incessant de faderies qu'on se murmure tout bas à l'oreille en tournant étroitement dans lacets, et qui sont plus dangereuses que la furtive brûlure d'un baiser. Malheureusement, les officiers du régiment de dragons qui tenaient garnison dans la ville nous faisaient la plus déloyale concurrence. L'assiette au beurre n'était que pour leurs lèvres trop friandes et surtout pour un grand lieutenant qui s'appelait le vicomte Georges de Monterex. Don Juan ressuscité sous un casque de dragon, hautain, insolent, sabreur, subodorant toujours quelque odeur de femme, courant la brune et la blonde, s'invoquant cavalièrement, les trompant avec un art parfait, et gentilhomme de la tête aux pieds. Les belles l'adoraient, les maris le craignaient, et les chercheurs de romans étaient réduits au rôle ridicule d'amoureux transis. Aussi, dans le café des étudiants et au cours de la faculté, on conspirait sourdement contre le beau détrousseur de vertu. Il y eut même de mémorables serments de vengeance, juré sur un billard à moitié crevé. Tout le monde criait « Haro !», serrait les poings, insultait platoniquement l'ennemi commun, et personne n'osait attacher le grelot, moi, pas plus que le commun des conjurés. Or, un jour de la mi-janvier, des commérages indiscrets nous apprirent que le vicomte Georges avait demandé la main d'une ravissante héritière de 17 ans, fraîche comme une branche d'aubépine en fleurs à pointe d'aube, et qui, blonde, et qu'on avait, en la regardant, la tentation de réciter des vers de Virgile. Depuis ma rhétorique, je ne voyais qu'elle, je ne rêvais que de ses yeux profonds et de sa bouche ronde de déesse. En son honneur, j'avais noirci des soleils fulgurants, plus de 3 cahiers. Hélas, et on l'affirmait sérieusement, qu'elle idolâtrait le don Juan. L'amour s'était furtivement glissé dans son cœur virginal entre deux valses, et les parents avaient retardé la cérémonie jusqu'à la fin du carême. « Oh, ce mariage ne se fera pas !» criai-je très haut dans la salle de café, au légitime ébahissement des consommateurs qui lisaient tranquillement leur gazette. On commenta beaucoup cette exclamation de défi, puis on changea de conversation, comme après les rodomontades accoutumées. La semaine suivante, la présidente recevait le soir et le vicomte de Monterex devait conduire le cotillon avec sa fiancée. Et d'où vint l'idée de ce haute-graisse qui germa alors dans ma cervelle? Je ne sais, et faut-il achever mon histoire? Je vous dirai très vite et très bas qu'il gelait ce soir-là à Pierre Fendre, qu'au coin d'une borne dans la neige, j'avais amassé quelque chose de dur qui ressemblait à un caillou grisâtre, et qu'après avoir longtemps attendu, avec une extrême patience, un instant favorable où il me fut enfin possible de glisser ma trouvaille dans la poche gauche de la tunique du lieutenant, tandis qu'il l'exposait à un monsieur absolument sourd ses théories sur l'avancement des officiers, le tour était joué. D'abord, on ne s'aperçut de rien. « Oh, me serais-je trompé ?» pensais-je anxieusement. Mais peu à peu, dans les tièdeurs molles qui remplissaient l'appartement plein de lumière et de monde, dans le tourbillonnement affolé des valses, dans le frôlement continuel des danseurs, le dégel commença. Et parmi les pénétrantes embaumées de white rose et de foin nouveau, des bouquets qui se fanaient languissamment dans les chevelures, parmi cette grisante senteur de blonde qui s'évaporait sous les coups pressés des éventails, monta une odeur innommable, une pestilence fade qui s'alourdissait dans l'atmosphère. Et plus le lieutenant remuait, plus l'odeur devenait forte. La fiancée rougissait. Il ne savait quelle contenance garder. Il n'osait lui demander une explication. Et l'odeur augmentait de plus en plus. Maintenant, on s'écartait du couple. On se mouchait bruyamment. Les dames tenaient leurs mouchoirs de dentelle contre leur nez rose. N'y tenant plus, le vicomte Hector voulut en faire autant. Il enfonça d'un geste brusque sa main finement gantée dans la poche gauche de sa tunique et, vous devinez la suite, un éclat de rire implacable, inextinguible, courut d'un bout à l'autre du salon. Le pianiste lui-même interrompit son monotone tapotement. Don Juan honteux et penaud avait disparu. Le lendemain, toute la ville savait la mésaventure et l'amplifiait de commentaires. Le mariage fut rompu, et furieux, sacrant, Monterex vint avec d'autres officiers au café des étudiants, provoquant Dieu et diable. « Mais où est le lâche, l'insolent, qui m'a joué ce tour ?» répétait-il. « Le voici, » répondis-je en saluant très poliment. « Et sachez que je suis à vos ordres, monsieur. » On se battit au sabre. Il tirait trop bien pour ne pas être blessé. Et depuis cette première affaire, nous ne pouvons pas nous rencontrer sans échanger des témoins. Il a juré de me tuer, et je n'ai aucunement l'intention d'acheter encore une concession à perpétuité au Père Lachaise. Cela peut nous mener très loin. Et c'est une manière comme une autre de s'entretenir la main.